Connaissez-vous la chaleur d'un feu de charbonnier au cœur de la forêt? La caresse du vent sous les ailes d'un gypaète barbu? Le silence profond d'une grotte, là où hibernait l'ours des cavernes aujourd'hui disparu? Ou bien encore la morsure de l'eau sur la pierre calcaire? Dans le Vercors, les éléments parlent. Ils façonnent les paysages, nourrissent les histoires, sculptent les vies. Feu, air, terre, eau. Quatre forces indomptées, quatre sources d'inspiration, quatre portes d'entrée pour explorer ce territoire rude et généreux et les histoires de celles et ceux qui y vivent. Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène au cœur du Vercors, là où les éléments nous inspirent. Vercors, l'inspiration des éléments, est un podcast proposé par Inspiration Vercors.
La terre est un élément. La terre est un élément constitutif de notre monde, de notre monde terrestre, justement. Dans le terrestre, il y a bien sûr terre.
Épisode 3, la terre, celle qui cache les secrets de l'histoire.
La terre, c'est aussi le souterrain. On a l'impression d'une certaine intimité avec ce monde secret, ce monde fermé, noir, obscur et à la fois vraiment formidable.
Avec Régis Picavé, paléontologue.
Rentrer dans cette terre, c'est une chance exceptionnelle et un privilège.
Il y a des millénaires, un géant marchait dans les entrailles du Vercors, l'ours des cavernes. Aujourd'hui, il ne reste de lui que des griffures sur les parois, quelques os enfouis dans l'argile et le mystère profond des grottes. Pour retrouver ces traces, il faut descendre, lentement, s'éloigner de la lumière du jour, ajuster son casque, allumer sa frontale et se laisser guider. Nous suivons Régis Picavé, paléontologue. Il connaît les cavités du Vercors comme d'autres connaissent leurs poches. Ensemble, nous plongeons dans les couches profondes de la terre, là où le silence est dense et chargé de mémoire.
Je prends mon petit sac spécial Amazonie, c'est étanche, donc dedans j'ai mes petites affaires, batterie de rechange, un peu d'eau, et puis ça suffira pour cette mini-expédition, parce que cette grotte, elle descend à moins 35 mètres, c'est vraiment une promenade en fait, une promenade souterraine, et en se promenant dans cette grotte, nous allons commenter tous les vestiges qu'on va pouvoir y remarquer. Donc on s'approche de la cavité, on marche un peu dans les feuilles. Comme c'est le printemps, il n'y a pas encore de feuilles aux arbres. Ça donne un côté un peu, pas sinistre, mais un peu tristounet quand même. On voit que la neige est partie il n'y a pas très longtemps. Nous sommes à l'entrée de la cavité. Ça ressemble à un chaos. On a mis des casques, surtout quand on est chauve, c'est très pratique. Je passe le premier ?
Allez.
Et on va passer entre ces blocs pour arriver sur les boulis de l'entrée parce qu'il y a plein de blocs qui sont descendus et ensuite on va voir que la galerie va s'élargir et on va pouvoir tenir largement debout puisqu'elle fait environ 7-8 mètres de large pour une dizaine de mètres de haut par endroit. On y va ? On s'enfonce sous terre, mais pas très profond, on est à moins 35 mètres de l'entrée lorsque nous serons au fond et il y a à peu près 300 mètres de développement. Là, on est en face d'une formation qui remonte probablement à l'ère tertiaire et qui est une cavité dite fossile, c'est-à-dire une cavité qui ne présente pas de circulation d'eau. Depuis, à mon avis, peut-être 10 à 30 millions d'années. Vers 1880, quand on commençait à s'intéresser à la science paléontologique et archéologique, eh bien, cette grotte très facile d'accès a été tout de suite parmi les premières explorées et fouillées. On a tout de suite vu, ils ont tout de suite vu l'importance du matériel paléontologique conservé dans l'argile de cette grotte. On avait parfaitement conscience qu'il y avait un sanctuaire d'ours des cavernes dans cette cavité.
avec des milliers et des milliers d'individus. On continue ? On a l'impression d'être dans une église. On change d'ambiance sonore, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. On voit des petites stalactites au plafond de la calcite. Et puis, des petites gouttes qui tombent parce qu'il a énormément plu ces temps derniers. Et donc, on a pas mal d'eau d'infiltration. On descend cet éboulis. Là, nous allons chercher les endroits qui ont gardé la trace de vie, de passage, de fréquentation des ours des cavernes, puisque cette grotte a fonctionné comme abri à ours pendant tout le quaternaire, avec des épisodes de purge dans cette grotte qui a livré, à mon avis, les ossements de plus de 2000 à peut-être à 3000 individus. Il fait frais et puis notre respiration dégage de la buée. Là, si on prolonge la paroi, il faut imaginer le tunnel qui fait au moins 5-6 mètres sous le sol actuel.
On a une belle galerie en fait qui est creusée là devant nous.
Elle est magnifique, c'est une galerie linéaire qui serpente un peu mais pas trop et qui suit les joints de stratification du calcaire. Et nous allons continuer. Les parois sont assez lisses et verticales. Et au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer dans la grotte, on va s'apercevoir qu'à hauteur d'ours, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les derniers ours des cavernes qui ont fréquenté cette cavité ont fréquenté un sol à peu près au niveau du sol actuel, on va voir qu'à hauteur d'ours, petit à petit, les parois ont été polies. Parce que les ours, dans le noir, ne sont pas équipés pour voir, d'ailleurs peu de mammifères le sont, et ils se guidaient en se frottant sur les parois pour aller au fond. On sait que les femelles allaient mettre bas pendant l'hiver de préférence. Elles allaient creuser des bauges dans l'argile, beaucoup plus avant dans la cavité. C'est là où nous allons maintenant. Du point de vue anatomique, l'ours des cavernes, il peut arriver facilement à entre 500 kg et une tonne. Debout, il fait 3,50 m. Et par contre, là, c'est quand même un animal qui se déplace à quatre pattes. Et donc, il était, on va dire, à une hauteur de 1 mètre, entre 1,30 m et pas loin de 2 mètres, au garrot. Il était de la taille des ours bruns Kodiak, aujourd'hui à peu près. Simplement, il a un arrière-train peut-être un peu surbaissé, des membres extrêmement puissants, c'est une bête très puissante. Et du point de vue de la tête osseuse, il a ce qu'on appelle un stop, c'est-à-dire qu'entre les yeux, au lieu d'avoir un chanfrein continu et lisse comme l'ours brun, eh bien, l'ours des cavernes, il a un creux à la base du front qui est vraiment caractéristique de cette espèce. L'ours des cavernes, c'est un cousin de l'ours brun. Ils ont vécu ensemble. Et seul l'ours brun, beaucoup plus adaptatif aux conditions écologiques des périodes tardies et post-glaciaires, c'est-à-dire autour de 10-12 000 ans avant notre ère, est beaucoup plus adapté. Et il a survécu, bien sûr, puisque le dernier ours brun a été tué dans le Vercors, d'après Marcel Couturier, en 1921. Au col de l'Arc à Villard-de-Lans, il s'agissait d'un ourson de 30 kilos et ils en étaient fiers. Alors on descend, nous suivons la galerie qui serpente un peu. Elle est parsemée au sol de blocs anguleux et on distingue entre les blocs un colmatage argileux qui est très humide en ce moment puisque nous sommes en fin d'hiver, après une saison très pluvieuse. C'est un peu glissant, mais ça rend le côté un peu ludique à l'affaire. Nous sommes à, on va dire, une 100-120 mètres de l'entrée. La paroi, elle a un aspect, on dira, faïencé, c'est-à-dire qu'il y a des micro-fissures et ça forme des petits bosselages qui sont de 5 à 10 cm en moyenne. Et ce sont ces petits bosselages en saillie qui commencent à porter des traces de lustrée dues au passage répété des ours. Il faut bien imaginer qu'il y a eu des milliers d'ours pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Vu qu'ils hivernaient probablement et ils y mouraient, c'était une sorte de lieu de vie et de lieu de mort que fréquentaient les ours de manière pérenne et de manière habituelle. Et ces ours, en se frottant contre la paroi, ont poli les parois, en tout cas pour tout ce qui est en saillie. On s'approche du fond. Alors là, je vais te montrer le plus beau polydours, un des plus beaux polydours de la grotte. T'es d'accord, c'est quelque chose d'extraordinaire, non ?
C'est très beau.
Moi, ça me fait penser à certaines marches d'églises romanes qui ont été foulés aux pieds par des milliers et des milliers et des milliers de personnes et qui se sont légèrement creusés et légèrement polis. On trouve un peu une similitude avec ce genre de stigmate. Et là, on dirait de la porcelaine presque. Et comme c'est poli, on voit les rudistes, c'est un calcaire à rudistes, qui sont des fossiles coquillés qui sont parfaitement visibles sur cette surface. Et c'est, si on laisse un peu émerger notre émotion, c'est pas dénué de sensibilité, voilà. Là, on passe entre deux énormes stalagmites. On dirait une coulée de fromage blanc. À la crème de marron, d'ailleurs. Et là, on a quelques concrétions, mais qui sont discrètes quand même sous forme de ce qu'on appellera des daraperies. Ce sont des concrétions verticales qui forment des sortes de lames.
Au sol, on voit toute cette terre. Ce ne sont pas des sangliers qui sont passés par là.
Non, ce ne sont pas les sangliers. Le sanglier n'est pas cavernicole, que je sache. Mais non, ce sont des fouilles clandestines. Voilà. En fait, les fouilleurs ont souvent fouillé les déblais des anciens fouilleurs et ainsi de suite. C'était les déblais des déblais et il y a un moment où on peut dire que tout le sédiment de cette cavité a été entièrement mélangé et remanié. Là, on dirait qu'il y a une fouille un peu plus récente. On va s'approcher pour voir si on voit quelques traces d'ossements. Souvent, les ossements ici sont un peu de couleur noire ou en tout cas brun foncé parce que exactement, c'est un métatarse d'ours des cavernes, c'est-à-dire un os du pied. Il est cassé, on voit très bien sa couleur brune, brun foncé, chocolat foncé. Voilà, donc il y a encore des fragments d'os qui traînent. Et pourquoi ces vestiges sont mieux conservés ici qu'ailleurs ou qu'en plein air ? Eh bien, simplement, on trouve sous terre, dans ces grandes cavités très anciennes, des conditions physiques et chimiques tout à fait favorables à la conservation des ossements. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un milieu trop acide pour attaquer le carbonate des eaux. Et donc, dans ces argiles de décalcification, ces vestiges de nature organique se conservent très bien et très longtemps, pour peu qu'ils ne soient pas trop remaniés, et d'ailleurs par les ours eux-mêmes, puisque les squelettes à même le sol devaient être plus ou moins dispersés par le passage répété des ours. Je ne suis pas certain non plus qu'ils ne se soient pas entre-charognés, si je puis dire, c'est-à-dire qu'un ours pourrait manger du cadavre d'ours, je ne serais pas vraiment étonné. D'ailleurs, on retrouve quantité de traces de canines. Alors, pas que des ours, il y a aussi des loups qui sont rentrés là-dedans, des lions, enfin très peu, mais il y en a. Et donc, il y a pas mal de carnivores qui se sont servis sur ces carcasses, apparemment. Comme certains autres grands mammifères, eh bien, il n'a pas trouvé des conditions bioclimatiques à sa mesure. Je ne pense pas que ce soit la surchasse par l'humain qui a provoqué sa disparition. Parmi tous ces ossements d'ours des cavernes qui sont parvenus jusqu'à nous, à ma connaissance, il n'y a qu'un fragment de bassin qui porte des toutes petites marques qui font peut-être 15 mm de long, qui auraient pu être provoquées par un outil en silex et qui pourraient témoigner du traitement d'une carcasse d'ours des cavernes. Mais moi, je pense que ça reste sujet à discussion et on est loin pour l'instant de pouvoir dire que les humains ont chassé l'ours des cavernes. On est à peu près à 170-180 mètres de l'entrée maintenant, et le sol monte, et la galerie diminue, puisqu'il y a beaucoup d'argile. On va ramper un peu, il y a un passage surbaissé, alors il va falloir tremper un peu dans la flotte.
Mais après, ça s'agrandit, je te vois. Tu ne pensais pas que je te traînerais dans la boue?
Comme un ours.
Comme un ours. Après, on peut se tenir debout si tu veux. Mieux qu'ici. Voilà.
On va jusqu'au bout de la galerie, parce qu'il faut toujours satisfaire une certaine curiosité, et sinon on resterait sur quelque chose de pas vraiment accompli. Donc on va aller jusqu'au bout du bout. Et ici, dans cette partie de la galerie, principalement, les ours des cavernes avaient creusé leur bauge. C'est une sorte de nid en entonnoir. On voit d'ailleurs dans certaines cavités, encore dans les bauges à ours, comme on dit, la trace de la fourrure des ours des cavernes, ce qui est très émouvant parce que souvent il y a un laps de temps de plusieurs quelquefois dizaines de milliers d'années entre ces traces et nous. Et on se dit, c'est comme une photographie en 3D d'il y a 15 000 ans ou 20 000 ans. Et je trouve ça toujours un peu émouvant quand même. Je vais te montrer un panneau sur lequel plusieurs ours se sont en quelque sorte fait les griffes. C'est très discret. Il faut reconnaître que pour entamer le calcaire dur, le calcaire urgonien, il faut quand même des griffes drôlement acérées. On distingue des griffades parallèles, au moins de 3 doigts, et un quatrième ici, qui sont pour moi le reflet de l'écartement des phalanges de cette patte d'ours.
On voit ces griffes qui ont sculpté la roche.
Exactement. C'est une trace de vie, d'action de ces ours. Parce qu'on peut voir ses ossements, on peut voir ses bauges. C'est chargé en émotions, à mon sens. Je trouve que ces restes vont exciter un imaginaire, parce que bien sûr, il y a des ossements du monde et des témoins de cette vie passée sous terre. Et c'est un peu notre héritage à nous les humains qui essayons de tout domestiquer et finalement de tout détruire. Je vais éclairer le fond et tu vois que ça s'abaisse à tel point que on va pas y aller. On va pas y aller. Je t'épargne ça parce que de toute façon, ça nous apporterait rien du tout. Par contre, ça conserve vraiment son mystère, ce remplissage, parce que le plafond rejoint le sol. Et ça, on peut imaginer qu'en allant plus profond, eh bien, on peut trouver quantité de vestiges. Qu'est-ce qui pourrait se passer derrière cette fin de grotte, cette fin, et on sait très bien qu'il suffirait de faire un passage dans le sédiment pour aller plus loin et probablement faire des tas de découvertes. Mais est-ce que ce n'est pas non plus aussi une bonne idée de laisser tous ces ours qu'on peut imaginer là-bas derrière dormir encore pendant quelques dizaines de milliers d'années ?
Pendant que les ours dorment encore, les humains continuent à explorer les cavités à la recherche de leurs traces. Griffures, ossements, des vestiges muets mais éloquents qui témoignent d'une présence aussi ancienne que mystérieuse. Si vous n'avez pas l'âme d'un spéléologue, certaines découvertes sont visibles à la lumière du jour, au musée de la préhistoire de Vassieu-en-Vercors par exemple. Merci à Régis Picavé pour cette descente dans les profondeurs de la Terre et du temps. Le mois prochain, nous explorerons le feu dans le Trièves avec Sébastien Perroux, charbonnier. Nous parlerons de bois, de braise et de gestes ancestraux. Merci pour votre écoute. Vercors, l'inspiration des éléments, est une série qui se décline en 4 épisodes qui fonctionnent chacun de manière indépendante. Écoutez-les dans l'ordre qui vous plaît. Production, Inspiration Vercors. Prise de son, réalisation et mixage, Alice Roy. Musique, François Joncourt.